Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bienvenue sur Radio Orient pour votre émission de débat. Et si on en parlait ? Nous aborderons dans l'émission avec nos deux invités du jour un sujet qui prend beaucoup d'ampleur dans notre société depuis plusieurs années. L'inclusion des personnes handicapées dans notre société. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Audrey Sauvigné, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter rapidement, mais c'est important pour nos auditeurs. Donc, vous êtes fondatrice d'I Will Share, qui est une start-up.
Exactement.
Vous êtes entrepreneuse, dessinatrice à vos heures perdues.
Exactement.
Ça sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous vous présentez. Et vous allez nous parler de vos projets, de votre expérience, de vos engagements pour l'inclusion numérique des personnes handicapées, mais d'une manière plus générale, de votre intérêt pour ce sujet et finalement de la manière dont vous avez créé votre projet, votre entreprise. Et merci d'être ici.
Tout à
fait. J'ai comme autre invité aujourd'hui Aurélien Pradier.
Bonjour.
Député de la première circonscription du Lot, qui est également quelqu'un qui s'est engagé sur la question de l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Je crois même que vous êtes en mission parlementaire sur un des volets de ce sujet, vous nous en parlerez. Et puis, récemment, vous avez également défendu une proposition de loi en faveur de l'inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap au sein de l'école publique, qui malheureusement a été rejetée, semble-t-il, mais qui marque évidemment votre intérêt sur un sujet, je l'ai dit, qui prend de l'ampleur, puisque c'est une préoccupation qui concerne des millions de familles dans notre pays. Et la question de la société inclusive, il faut la concevoir comme étant à la fois, c'est vous qui l'aviez dit dans un des propos que vous aviez tenus, il faut banaliser un petit peu le handicap, il faut que ça devienne quelque chose qui soit intégré systématiquement et finalement qu'on arrive presque à oublier qu'on s'adresse à un public particulier. Mais c'est surtout à différentes étapes de la vie, inclusion scolaire, inclusion sociale, inclusion professionnelle et c'est votre engagement. Audrey Sauvigné, inclusion numérique. Alors la première question, je vous l'adresse, c'est d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé dans la conception, la réalisation de votre projet? Et puis, dans ce que vous allez nous expliquer, qu'est-ce que vous souhaitez apporter et quelles réponses, quelles solutions, parce que je crois que c'est ça, on est sur des solutions informatiques, sur des applications, vous mettez pour faciliter, améliorer la vie des personnes en situation de handicap.
Oui, alors donc, on n'est pas totalement sur l'inclusion numérique, mais l'inclusion par le numérique. Donc tout a débuté pour moi, enfin mon parcours dans le handicap passe par mon histoire personnelle chez mon petit frère qui a eu un accident de la route il y a 6 ans, qui l'a rendu paraplégique. Moi, j'étais au même moment en train d'apprendre à coder, à programmer des applications mobiles, des sites internet. Et au vu des difficultés qu'il pouvait rencontrer dans son quotidien pour trouver des sorties, mais aussi juste des expériences de vie, enfin, ou acheter une baguette de pain quand on est en fauteuil roulant, enfin, c'est tout un apprentissage quand on a un avant-après avec un accident qui vient marquer une rupture. Et du coup, cet apprentissage est long, demande à rentrer dans un univers qu'on ne connaissait pas du tout avant. C'était mon cas, c'est celui de mon frère aussi. Il est aussi passé par là, et puis tout notre entourage. Et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'informations sur Internet, sur des blogs, sur des sites qui apportent des informations d'accessibilité, mais aussi via des blogs, des forums où il y avait une prise de parole des personnes en situation de handicap, de leur entourage qui partageaient des retours terrain, des retours d'expérience qu'on trouvait de qualité parce que finalement, les informations qu'on pouvait trouver sur des sites plus administratifs ou de villes,
classiques,
traditionnels ou sur des activités, parfois ces informations étaient caduques, on avait du mal à leur faire confiance.
Pas mis à jour.
Voilà, pas mis à jour. Et du coup, en croisant les deux, en croisant à la fois les retours terrain et les informations plutôt, on va dire, classiques, enfin je sais pas. j'ai pas les mots pour les nommer, mais on avait finalement une information qui était plus pertinente et dans laquelle on pouvait avoir plus confiance. Donc I Will Share a débuté comme ça, par ces constats-là. Au démarrage, c'était une application mobile qui est sortie en mars 2016 et qui permettait à chacun, aidant ou personne en situation de handicap, de partager des retours d'expérience de manière géolocalisée pour savoir où sont les bons plans et comment en profiter. Au final, l'application mobile, on l'a éteinte il y a peu de temps parce qu'on s'est rendu compte qu'on finalement on éclatait la communauté des personnes en situation de handicap et des utilisateurs au sein d'un microservice sur une micro-expérience et puis qu'on faisait partie de toutes ces micro-applications mobiles qui existaient pour des micro-besoins et ça participe. Ça n'allait pas dans le sens de notre discours qui était de mutualiser les forces. Donc, on a tout remis à plat et on s'est concentré sur. Je vais parler dans des termes un peu techniques, mais je vais vulgariser ensuite.
On va expliquer pour nos auditeurs, c'est intéressant.
Voilà, on a concentré notre énergie dans le développement d'une API. Donc, une API, c'est comme un meuble à tiroir dans lequel on va ranger des informations. Donc, ce qu'on fait au sein de cette API, c'est qu'on rassemble des bases de données, des informations, qu'on structure de la sorte. On a à la fois la couverture géographique des actions, le besoin couvert, accès à la culture, accès au logement, accès au commerce de proximité, accès au sport, etc. Donc ça, c'est les besoins. Et puis, le handicap adressé. Donc, selon ces trois axes, on range nos informations dans ce meuble à tiroir qu'on appelle une API. Et entre l'API et l'utilisateur, on place ce qu'on appelle un chatbot. C'est une intelligence conversationnelle qui va poser des questions à l'utilisateur. Il va lui demander...
Et aller chercher les informations dont il a besoin.
Voilà. Donc lui, il s'appelle Wilson, c'est un personnage fictif. Il va interroger l'utilisateur sur son handicap, sur son besoin à l'instant T. Quel est son besoin ? Est-ce qu'il a besoin de trouver des toilettes accessibles autour de lui ? Est-ce qu'il a besoin de trouver un distributeur de banque où il peut brancher son casque audio s'il est non-voyant ? Est-ce qu'il a besoin de... ou envie juste d'aller au cinéma parce qu'il est sourd et il a besoin de savoir où se trouvent les séances qui proposent les sous-titrages sourds ou les VO, enfin un film en VO sous-titré. Donc voilà, et puis Wilson va lui répondre en fonction de sa géolocalisation, de son handicap et de besoins exprimés. C'est tout simple, ça existe depuis décembre 2018 et voilà, on est encore en phase d'augmentation des informations qu'on partage à nos utilisateurs, mais l'idée c'est vraiment de centraliser et de simplifier la recherche d'informations pour les personnes concernées.
Et donc ça n'existait pas avant, vous avez créé un service.
C'est ça.
Pour les personnes porteuses de handicap qui n'existaient pas avant.
Non, ça n'existait pas, cette volonté de centraliser, parce que le handicap est très éclaté, même au sein d'un même combat, des associations sourdes ou des associations non-voyantes vont pas être d'accord sur le braille, pas braille, l'audio, l'assistance vocale, les outils numériques ou pas du tout. Enfin, voilà, il y a plein de combats d'égo, et je pense que ça dessert beaucoup le monde du handicap. Et voilà, notre volonté, nous, c'est vraiment de faire de centraliser,
de fédérer, de transcender.
De fédérer, ouais, exactement.
Alors, Aurélien Pradier, vous êtes également dans ce combat. Vous avez, lorsque vous avez été chargé de mission parlementaire, tenu des propos extrêmement forts. Je vous cite, « Beaucoup reste à faire pour mettre fin à l'exclusion sociale de nos concitoyens et rendre notre droit plus juste en la matière. » Donc, les concitoyens, c'est les personnes handicapées. C'est un sujet qui touche plusieurs millions de nos concitoyens. C'est un des aspects du handicap qui doit être traité. Alors là, vous parlez du sujet qui concerne vraiment la mission parlementaire. Donc, c'est les gens qui sont sous curatelle, les gens majeurs. Mais d'une manière générale, vous dites la France est en retard. Et vous avez, je l'ai rappelé tout à l'heure, déposé une proposition de loi pour l'inclusion à l'école des enfants. Expliquez-nous le sens que vous donnez à votre action parlementaire et pourquoi est-ce que vous êtes finalement engagé sur ce sujet et de manière extrêmement forte et concrète ?
Souvent, celles et ceux qui sont engagés sur des sujets difficiles, parce que le handicap est un sujet difficile, le sont parce que nous avons une histoire personnelle avec le handicap. C'est le cas de votre invité, c'est aussi mon cas, et généralement c'est comme ça que les choses se déclenchent. Donc, c'est une histoire familiale avec le handicap, comme vous, de moments de basculement entre des périodes où tout allait bien et des périodes où c'est beaucoup plus difficile. Mon père n'est pas né avec le handicap, il a fait un accident cérébral il y a quelques années très grave. Et donc on est passé du moment où tout allait bien au moment où tout allait mal à peu près. Et donc naturellement, ça vous sensibilise très tôt aux questions de handicap et ça vous fait changer le regard sur beaucoup de choses. Et donc le handicap est en fait sûrement un des déclencheurs de mon engagement politique très jeune, parce que j'ai 32 ans aujourd'hui, mais j'ai commencé à être élu local, j'avais 21 ans, donc ça fait une dizaine d'années. Et en fait, c'est un sujet qui m'a toujours suivi ou poursuivi, je sais pas, mais qui était là dans mon bagage d'engagement politique, pas seulement, mais ça faisait partie de mon bagage. Et à l'Assemblée nationale, j'ai trouvé l'occasion de le concrétiser. L'occasion de porter une voix qui est peu entendue, qui est celle des personnes en situation de handicap. Montrer aussi que notre pays était en retard, c'est la vérité. La France est très en retard sur ce sujet. Que, à bien des égards, la France peut être fière de ce qu'elle fait pour les plus fragiles. Pour le handicap, elle peut être fière, mais elle peut aussi avoir quelques zones de honte. Je le dis très clairement. Il y a deux manières de faire, ou on ne dit pas la vérité, ou on la dit. Et je pense que ma mission de député, c'est de dire la vérité, parce que je crois en ce que la France est capable de faire, ce que mon pays est capable de faire. Et je ne fais pas partie de ceux qui veulent se payer de mots sur le handicap en disant que tout va bien, que c'est formidable, alors même qu'on a de vrais sujets de retard. Et puis la deuxième raison, qui est plus fondamentale peut-être encore, c'est que moi je pense que quelles que soient les couleurs politiques, lorsqu'on est député, lorsqu'on s'engage en politique, on a une mission, c'est de faire entendre tous ceux qui ont le plus de mal à se faire entendre. Je dis souvent que comme député, je suis pas là pour défendre les plus puissants, même si je les respecte profondément, mais parce que je pense que les plus puissants dans notre pays ont largement des occasions de se faire entendre, ont les moyens de se faire entendre. Et le rôle des députés, le rôle d'un engagé en politique, c'est de faire entendre toutes celles et ceux qui ont le plus de mal à se faire entendre. Et ce rôle de porte-parole des plus fragiles, à droite comme à gauche, parce que ça traverse les partis politiques, c'est une mission qui est au cœur de l'engagement politique, de mon engagement politique, mais plus généralement de l'engagement politique. Et le handicap fait partie de ces sujets qui sont pas peu ou mal entendus. Vous avez commencé notre discussion avec ce mot d'inclusion. Ça fait des mois que je n'entends que ce mot. Et souvent, ceux qui prononcent le plus le mot d'inclusion, c'est pas notre cas collectif ici, sont ceux qui en font le moins. Et lorsque j'ai commencé à débattre de ces questions, notamment de l'inclusion scolaire à l'Assemblée nationale, j'ai vu des collègues députés, des membres du gouvernement répéter 15 fois dans une phrase le mot d'inclusion et ne quasiment rien faire sur le sujet. Et on est à une période où on fait beaucoup de communication sur le handicap. On se paye beaucoup de mots et on se paye de peu d'actions. Et ma responsabilité de député, c'est de secouer le cocotier quand c'est nécessaire, et c'est de dire aux ministres concernés: arrêtez de nous baratiner, arrêtez de prononcer des mots qui deviennent vides de sens parce que derrière, il ne se passe rien. Ce qui est vrai aussi, c'est que lorsqu'il y a 4 mois, j'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour faire avancer la question du handicap à l'école, et notamment le statut des AESH et des AVS, donc des femmes et des hommes, mais souvent des femmes qui accompagnent les enfants en situation de handicap au sein de l'école. J'ai été
les aidants, ce qu'on appelle
les aidants, les accompagnants.
Les accompagnants. Ouais.
J'ai été stupéfait de voir la tournure qu'a pris le débat. Puisqu'il faut quand même rappeler, pour moi ça a été un moment édifiant, triste mais édifiant, que les députés de la majorité, et un peu au-delà d'ailleurs, ont refusé qu'on débatte du texte. Ils ont voté ce qu'on appelle une motion de rejet préalable, ce qui est une violence inouïe. Non seulement ils n'ont pas dit on n'est pas d'accord avec les propositions, ils ont dit ça ne mérite pas qu'on examine le texte. Ce qui pour moi était d'une violence incroyable à l'égard des députés d'abord, parce que quand on est député, on est là pour discuter des textes, pas pour refuser de les discuter. Mais bon, à la limite, ça c'est pas grave.
C'est
mais surtout à l'égard des familles, des accompagnants, de toutes celles et ceux qui attendaient une réponse. Et ce combat a donc commencé il y a 4 mois avec cette proposition de loi, et depuis je ne l'ai pas lâché. J'ai débuté une mission parlementaire sur la question importante des tutelles et des curatelles, donc de ces millions de Français qui sont placés sous des mesures de protection, et que bien souvent, on prive de libertés fondamentales au prétexte de les protéger. Et depuis donc plusieurs mois, j'y reviens cet après-midi, j'auditionne des acteurs qui souvent sont là pour bien faire les choses, pour protéger les plus fragiles, mais qui en les protégeant et parfois en les surprotégeant, les privent de libertés fondamentales. Et là, je crois que c'est le cœur aussi de la mission d'un député, c'est d'être vigilant au respect et à l'expression des libertés fondamentales. Tout le reste, c'est accessoire. Libertés fondamentales, elles sont, comme son nom l'indique, absolument fondamentale. Et donc nous sommes avec une collègue députée en train de travailler sur ce sujet. Mais là aussi, pour poursuivre, il y a deux manières de faire de la politique ou de s'engager sur ces sujets. Ou bien on fait semblant, on est plein de bonne conscience. Et puis, oui, en ce moment, là, il y a un truc qui me révolte, qui m'agace. Le gouvernement a lancé une opération de communication qui consiste à ce que des gens normaux, un mot détestable, mais des gens valides, soient accompagnés pendant
une
journée...
Non porteurs de handicap.
Oui, soient accompagnés pendant une journée d'une personne en situation de handicap. Et puis ça ne dure qu'une journée. Alors on prend une personne en situation de handicap, on la met à côté de soi, on la balade toute la journée, on fait semblant pendant 24 heures, et puis après c'est terminé. Et ça m'insupporte. Voilà. Alors je sais que c'est pas dans l'air du temps, parce que c'est une opération qui visiblement plaît beaucoup aux uns aux autres.
Enfin, dont on peut dire qu'elle part d'un bon sentiment ou qu'elle a une volonté de sensibiliser. Voilà.
Oui, écoutez, les bons sentiments, c'est très sympathique, mais sur ces sujets-là, il faut beaucoup plus que des bons sentiments. En plus, je vais vous dire, je soupçonne derrière les beaux sentiments, il y ait très vite du cynisme. Moi, je refuse d'instrumentaliser qui que ce soit, de le promener pendant une journée à côté de moi pour me donner bonne conscience. Parce que c'est quand même un peu ça le fond de l'histoire. Et j'ai beaucoup plus de respect pour ce que vous faites, madame, des actions concrètes, réelles, dans l'ombre, bien souvent, qui ne sont pas toujours mises en lumière. Vous le faites aujourd'hui et c'est heureux.
De moins en moins dans l'ombre, hein, heureusement,
mais qui sont essentielles.
On a déjà eu l'occasion d'entendre Audrey Sauvigné dans d'autres médias. Vous avez également reçu des prix. Et ouais. Vos projets ont été soutenus, je crois, dès le départ, dès 2015.
Oui, après, soutien, bah justement, c'est beaucoup de visibilité, beaucoup de communication. Mais je l'ai remarqué il y a peu de temps. J'ai reçu un prix il y a 2-3 semaines. En ce moment, j'ai un jeune chiot, futur chien guide, dont je suis famille d'accueil, pour 1 an. Et on m'a demandé de le ramener pour les photos. Ça faisait bien. Seulement, c'est un jeune chiot. Il a presque 3 mois, donc il a un comportement de chiot. Et du coup, il s'est mis à aboyer pendant la cérémonie. Et pendant cette cérémonie, j'ai reçu des textos de l'organisateur, qui était une grande entreprise, qui me demandait de faire taire mon chien avec des points d'exclamation, alors qu'eux-mêmes m'avaient demandé de le ramener pour justement un effet de communication. Et tout ce que vous dites là est très vrai. Je crois qu'aujourd'hui, le handicap donne bonne conscience à plein d'entreprises pour leur côté RSE. Les politiques, c'est pareil, s'y mettent également et c'est déplorable. C'est vraiment un petit poison pour nos actions parce qu'effectivement, on a besoin de visibilité pour les faire connaître, pour se faire connaître auprès des personnes concernées. Et du coup, on est tout le temps dans ce dilemme. Je parle au nom de plusieurs acteurs parce que je suis entourée, on est dans un écosystème, on est... quand même, il y a un foisonnement d'initiatives qui apportent des solutions et on est tout le temps dans ce dilemme. Est-ce qu'on accepte ce coup de com' en sachant très bien que l'acteur en question qui va nous inviter à ce coup de communication n'est pas engagé pour les bonnes raisons à nos côtés. Donc, ouais, je vais vraiment dans votre sens là-dessus.
Et donc, pas engagé durablement. C'est les opérations,
voilà,
du marketing, à un moment donné, on veut effectivement associer l'entreprise à certaines valeurs, à certains thèmes, on met en scène ce rapprochement, mais qui finalement est un peu artificiel.
Tout à fait,
vous dites.
Exactement.
Donc, ça vous fait réagir, puisque finalement, vous dites un petit peu des choses...
Oui, je le pense vraiment, et puis je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire, parce qu'on se planque beaucoup sur ces sujets. Alors, on ne veut pas passer pour le rabat-joie de service, mais moi, y compris à l'Assemblée nationale, je passe parfois pour un peu l'emmerdeur, quoi. Mais si personne ne le dit, on va continuer dans ce lit de bonne conscience sans véritablement agir. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est ce que la question du handicap apporte à notre société. Vous comme moi, nous n'étions pas concernés par le handicap il y a quelques années. Le handicap frappe nos proches. Et je vois à quel point, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, ça nous a changé profondément. Vous disiez tout à l'heure que ça vous a poussé à découvrir un monde que nous ne connaissions pas. Et le regard que désormais nous portons et que je porte sur la société est un regard différent, parce que j'ai été touché par cette question du handicap. Et lorsqu'à l'école, je dis qu'il faut que nous ayons des enfants différents, c'est parce que moi j'étais maire pendant des années, je m'occupe toujours de l'école de mon village, on accompagne beaucoup d'enfants différents, avec des formes de différences larges, je vois ce que ça apporte aux autres enfants. Je vois à quel point ils grandissent, à quel point ils mûrissent. Et donc notre société grandira de ces différences-là. Mais il faut du courage. La dernière loi courageuse en matière du handicap, ce fut celle portée par Jacques Chirac en 2005, sur l'accessibilité. Eh bien, voyez-vous, je le disais à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, s'il nous fallait aujourd'hui revoter la même loi, qui a dit quelque chose de révolutionnaire à l'époque, tous les bâtiments publics vont devenir accessibles. Bon, ça coûtait, comme diraient certains, un pognon de dingue. Il fallait être courageux pour tenir bon. Jacques Chirac a tenu bon avec les ministres et la majorité de l'époque. Si aujourd'hui, il nous fallait revoter la même loi, nous en serions incapables. Incapables parce que nous n'aurions pas aujourd'hui le courage de voter de telles lois. Et donc, je le dis, je pense qu'on est, sous couvert de cette bonne conscience, en train de cacher parfois une certaine régression.
Alors, on y reviendra parce que ce sera intéressant que vous nous disiez justement où on en est depuis cette fameuse loi, un peu un tournant effectivement, de 2005, qui en plus vous intéresse aussi puisque oui. On parle d'accessibilité, on y reviendra dans un instant.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, et si on en parlait, aujourd'hui nous abordons le sujet de l'inclusion des personnes handicapées dans la société avec nos deux invités, Audrey Sauvigné, fondatrice d'I Will Share, entrepreneuse qui est effectivement totalement impliquée dans un projet dont elle nous a parlé tout à l'heure et dont nous allons continuer à évoquer les différents aspects, et Aurélien Pradier, député de la première circonscription du Lot, qui évoquait dans son propos la loi de 2005 qui représente effectivement un moment très important. Peut-être, Audrey Sauvigné, vous vouliez réagir à ce que disait Aurélien Pradier avant la pause.
Oui, donc je voulais réagir sur ce concept en fait d'inclusion, de le visualiser comme un effet de chaîne finalement, parce que là on parlait d'inclusion à l'école, mais du coup l'inclusion à l'école découle sur l'inclusion professionnelle. On le remarque, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à accéder aux études supérieures. Moi, ma première confrontation sur le sujet, c'était ma première stagiaire au sein d'I Will Share, qui était en fauteuil roulant électrique, Mia, si tu nous entends, et qui du coup avait dû complètement changer d'orientation scolaire parce qu'elle était à Amiens, elle avait commencé une filière scientifique, première année, elle arrive majeure de sa promo, et en fait la deuxième année se passait dans un bâtiment qui était complètement inaccessible pour elle. Donc elle avait commencé l'année avec des cours à distance, et puis elle s'est dit mais c'est pas comme ça en fait que je veux étudier, et du coup elle a fini par complètement bifurquer sur le journalisme à la Sorbonne, et aujourd'hui je crois qu'elle travaille, mais voilà, ça avait complètement changé son orientation. Je sais que mon frère aussi a été confronté à cette question, et en fait ces personnes qui n'accèdent pas aux études supérieures, ben, c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir accéder au monde du travail ou plus difficilement. Enfin, c'est 6%, il y a la loi donc des 6% de travailleurs en situation de handicap, voilà, pour toutes les entreprises qui sont en-dessus de 20 salariés. Et en fait, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes employables aujourd'hui en situation de handicap pour que toutes les entreprises atteignent ces 6%. Donc elles sont en train de chercher aussi au sein de leurs salariés qui seraient potentiellement avec un handicap invisible, à les pousser à faire leur RQTH. Enfin, c'est
la reconnaissance du handicap.
Voilà, exactement.
On peut être porteur d'un handicap, mais ne pas le faire reconnaître et ne pas avoir besoin de le faire reconnaître.
Tout à fait. Et puis, en fait, il y a des craintes aussi à le faire reconnaître.
Oui.
Quand on est salarié d'une entreprise depuis 10 ans, on a développé toute une fausse personnalité pour se défendre, pour cacher, en fait, pour dissimuler le fait qu'on est handicapé. Parce qu'il y a déjà un problème de vocabulaire, en fait. Handicap vient de l'anglais « end in cap ». Donc, c'était des mendiants, c'était des personnes qui étaient en position basse, qui tendaient la main.
Qui n'étaient pas en capacité de travailler, en fait, et ils étaient obligés de mendier pour vivre, quoi, pour
c'est
survivre.
Ça. Donc, il faut bien bien comprendre que les personnes salariées depuis 10 ans dans une entreprise se déclarer en situation de handicap, c'est quand même pas évident comme coming out à faire auprès de leurs collègues, auprès de leurs supérieurs. Ils ont la crainte d'être mis au placard, d'être perçus différemment. C'est très compliqué. Le handicap est vraiment, et l'inclusion est vraiment un effet de plein de maillons qu'il faut prendre en considération dès la scolarité, dès l'enfance.
Et on voit aussi que dans l'exemple que vous avez donné de cette personne qui n'a pas pu suivre le cursus universitaire qu'elle souhaitait pour un problème, j'ai envie de dire, qui nous valide, nous paraît invraisemblable, parce que c'est juste accéder à un bâtiment, à quel point finalement l'accessibilité physique dans un bâtiment ou dans un lieu est un point crucial pour beaucoup de personnes, et que ça peut être ne pas pouvoir accéder à des bâtiments, ça peut être un vrai... je dirais que c'est doublement handicapant.
C'est qu'on
est dans sa vie, dans ses choix de vie, on peut être à un moment donné privé de liberté, privé de la liberté de choisir et donc de circuler. Et donc, votre projet, lui, il a vocation à apporter une partie de la solution à certaines de ces difficultés. Et là, je me tourne vers vous, Aurélien Pradier. Vous nous parliez de la loi de 2005, mais visiblement, il y a encore, sans mauvais jeu de mots, du chemin à parcourir pour que tous les bâtiments publics soient accessibles. Je sais qu'il y a aussi des raisons de coût, évidemment. Quel bilan vous faites, et surtout comment on pourrait relancer, comment relancer un petit peu ce sujet ? Parce qu'on peut parfois avoir le sentiment qu'une fois que la loi est votée, ma foi, elle va s'appliquer et on ne vérifie pas forcément les effets. Or, on sait que malgré tout, même si la loi a eu un effet très important et un impact sur le terrain, il y a encore, vous l'aviez dit tout à l'heure, des retards et toutes les villes, tous les territoires n'avancent pas à la même allure.
C'est un sujet absolument fondamental, l'accessibilité physique au bâtiment. Alors ça l'est pour les questions de handicap, courantes qu'on peut avoir en tête, la personne en fauteuil roulant, etc. Mais nous sommes aussi dans une société qui vieillit de plus en plus, on vit vieux de plus en plus longtemps, et c'est heureux. Et on a besoin aussi de ces accessibilités-là. Et la rampe accessible à l'entrée d'un bâtiment public, elle va servir autant à la personne en fauteuil roulant qu'à la personne âgée, qu'à la maman avec sa poussette et ses enfants. Donc il faut aussi redire à quel point l'accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation de lourd handicap. Et puis, il faut là aussi se reposer la question du rôle de la loi de la République. La loi, elle fixe le cap. La loi, elle dit ce que l'on veut faire de la société. Et je vous prends un exemple très concret. La loi de 2005, c'est elle qui a permis notamment qu'on ait les bandes rugueuses au début des passages piétons pour les personnes malvoyantes. Moi, j'ai été maire pendant des années. Quand on m'a imposé de mettre en place ces dispositifs, je vais vous dire clairement, ça m'ennuyait, parce que je trouvais que ça coûtait de l'argent. Et puis, on avait toujours une bonne raison de dire, mais écoutez, dans cette rue, il n'y a jamais de personnes handicapées, etc. Et on a mis en place tous ces dispositifs parce que la loi nous a obligés à tordu le bras des uns et des autres en disant, vous allez le faire. Et ça a servi à quoi ? Ça a servi non seulement aux personnes malvoyantes pour traverser la rue, mais nous qui sommes valides, lorsqu'on est devant un passage piéton, on visualise le handicap, puisqu'on a aussi cette bande-là. Et le handicap a pris sa place physiquement dans la société. Ce sont aussi des outils de sensibilisation de tout le monde, de banalisation du handicap, vous le disiez tout à l'heure, où le handicap fait partie de notre quotidien.
Banalisation au bon sens du terme.
Bien sûr.
C'est-à-dire comme faisant partie du paysage et comme étant un élément.
C'est la bonne manière d'aborder
vie.
La question du handicap. On ne va pas les planquer dans des lieux qui leur sont réservés. Il faut les mettre au cœur de la société. Et je poursuis un instant sur cela. Vous avez raison de dire qu'il faut des solutions absolument radicales. Alors comment faire en sorte que, par exemple, cette loi de 2005 soit mieux appliquée ? Déjà, en évitant de la détricoter. Parce que depuis plusieurs mois, on est en train de l'affaiblir, cette loi de 2005, notamment sur les logements. La loi Elan, qui a été votée il y a quelques mois, est une régression par rapport à la loi de 2005. Cette loi, elle dit que les bâtiments, les logements ne seront plus nécessairement accessibles, mais devront être évolutifs. Ce qui veut dire que, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais en gros, quand vous êtes en situation de handicap, il faudra que vous puissiez faire évoluer votre bâtiment, votre logement.
Concrètement, ça veut dire qu'on amoindrit une obligation.
Oui,
qui avant était une obligation, devient une option.
Je l'ai combattu, on est en train de rendre service aux promoteurs, mais pas de rendre service à la loi et à l'intérêt général. Et puis surtout, ça montre l'isolement. Il y a qu'en clair, demain, quand vous êtes une personne en situation de handicap, vous avez le droit de vivre dans un logement, c'est déjà beaucoup, on considère que c'est déjà une faveur qu'on vous fait. Par contre, vous n'avez pas le droit d'aller visiter le voisin qui lui n'est pas en situation de handicap et dont le logement ne sera pas accessible. Enfin, vous voyez, on est vraiment en train de régresser sur ces sujets. Et je pourrais ne pas le dire, je pourrais dire qu'au fond, tout ça, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme et tout le bazar. La vérité, c'est qu'on est en train de manquer de courage. On a la main qui n'est plus aussi forte qu'elle l'était sur ces sujets-là, et je le regrette beaucoup. Il y a un mot qui est un poison sur tous ces grands défis de société, c'est le mot de pragmatisme. Ça fait des mois à l'Assemblée nationale que je n'entends que ça. À chaque fois qu'on veut planquer une régression, on dit que c'est pragmatique. Alors moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, pragmatique. Moi, je ne connais que l'intérêt général, je ne connais que les idées politiques, je ne connais que les caps à donner à la société. Le pragmatisme, c'est de la gestion quotidienne des petites choses. Et donc, quand on est député, on n'est pas là pour être pragmatique. On est là pour avoir des convictions, des idées et donner un cap à notre pays. Donc sur la loi de 2005, moi, je suis convaincu que c'est une des grandes lois de la République depuis quelques décennies. La première des choses, c'est de ne pas l'affaiblir. Et moi, je me contrefous de savoir quelles sont les préoccupations des promoteurs immobiliers. Mais vraiment, ça, c'est le dernier de mes soucis. Moi, ce qui compte, c'est la préoccupation de celles et ceux qui sont en situation de handicap et de notre société tout entière.
Oui, si je peux juste intervenir. Je pense que pour consolider cette loi de 2005... pour aller encore plus loin, et on le remarque au sein de notre service, et c'est aussi un engagement qu'on a pris auprès de nos utilisateurs, c'est de rendre visible, d'informer en fait les personnes concernées sur les endroits qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend accessible des bâtiments, mais l'information sur l'accessibilité de ces bâtiments n'est pas disponible auprès de l'utilisateur final. Moi, je parle beaucoup de bases de données, hein, donc ces informations qu'on amène à nos utilisateurs, souvent n'existent pas ou sont peu qualifiés.
Amener finalement l'information vers celui qui en a besoin.
C'est ça. Et puis en plus de ça, ce sont des informations qui sont très mouvantes. L'accessibilité, elle bouge dans le temps. Elle peut être au top niveau un jour et puis, avec une reprise de commerce, être dégradée. Et donc, il y a un vrai sujet avec l'open data. Je suis désolée, je suis sur des sujets un peu techniques, mais l'open data, donc c'est l'ouverture des données d'accessibilité. L'open data, donc amené sur le sujet du handicap, ce serait l'ouverture de ces données pour qu'il y ait un plus grand nombre d'acteurs qui puissent réutiliser ces informations et les diffuser auprès des utilisateurs finaux. Et en fait, plus une information sera répandue et réutilisée, plus on aura de regards qui se porteront sur cette information et d'éventualités qu'elle soit actualisée.
Alors, j'ai une question, puisque on a dans le studio un législateur. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie, concrètement, dans votre activité, en tant que faiseur de solutions et de services à rendre, et dont là, finalement, le produit brut, c'est l'information.
Ouais.
Est-ce que y a des freins, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des limites, même légalement, des choses qui, est-ce qu'il y a des choses qui vous faciliteraient la vie si on pouvait modifier la loi ou
aujourd'hui,
obliger les collectivités, je sais pas, à mettre à disposition des informations.
Les collectivités sont de plus en plus sensibilisées à l'open data et c'est une très bonne chose. Nous, ce qui nous faciliterait la vie, ce serait que on ait un accès plus facilité à ces bases de données. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps et c'est notre action de manière très bénévole. Hein, on gagne pas d'argent avec ça, mais c'est pour renseigner au mieux nos utilisateurs. On passe beaucoup de temps à taper aux portes, à chacune des portes, c'est-à-dire la Fédération d'e-sport. On est partenaire maintenant, mais il y a plein d'autres fédérations pour les équipements sportifs, pour pouvoir renseigner nos utilisateurs sur où pratiquer un sport autour d'eux. Il y a beaucoup de fédérations qui ont maintenant le sport adapté au sein, qui hébergent le sport adapté au sein de leur fédération. Donc, il faut taper à la porte de chacune de ces fédérations. Pour les distributeurs de banques, je le disais tout à l'heure, l'accessibilité pour les non-voyants, du coup, de savoir où se trouve le distributeur de banque sur lequel ils peuvent brancher leur casque audio et avoir accès à l'assistance vocale, bah là, on a dû taper à la porte de chacune des banques en leur disant...
Alors qu'il y a des fédérations professionnelles.
Alors qu'il y a des fédérations professionnelles, mais pour aller... Et puis en plus, voilà, ça prenait à chaque fois peut-être 2-3 mois pour accéder à la personne qui allait nous ouvrir la base de données et qui nous disait mais bien sûr, on a rendu adapté nos distributeurs, autant de faire savoir. Mais du coup, on est sur une aberration qui est que effectivement, on rend accessible de plus en plus de lieux, on rend adapté de plus en plus de services, mais souvent l'utilisateur final n'est pas informé.
Il y a un hiatus entre... C'est ça. les équipements ou les bâtiments qui sont mis aux normes, qui sont adaptés, mais finalement, les gens ne le savent pas forcément.
Et les services, j'ai discuté il y a peu de temps avec la SNCF, et puis en parallèle, j'ai des utilisateurs qui, dont un qui habite à La Ciotat, qui a 50 ans, qui s'appelle Richard, que je salue, qui n'a pas pris le train depuis qu'il a 10 ans. Il a 50 ans aujourd'hui, mais parce que quand il avait 10 ans, son père faisait le transfert du fauteuil au siège. Et en fait, il ne savait pas, parce que des fois, le bouche à oreille fonctionne mal, que les personnes ne vont pas aller chercher l'information. Il ne savait pas que la SNCF propose un service adapté.
Service maintenant.
Voilà, qui permet d'être accompagné dans son voyage. Et la SNCF, de leur côté, sont exaspérés parce qu'ils mettent en place des choses et les personnes ne vont pas forcément aller chercher l'information parce qu'effectivement, leur site est un peu compliqué à la navigation. Donc nous, c'est vraiment notre mission, c'est d'optimiser le trajet entre l'information et la personne concernée, et voilà, au regard de son besoin, de l'endroit où elle se trouve et de qui elle est.
Alors Aurélien Pradier, est-ce que justement c'est pas à la puissance publique à un moment donné de déverrouiller ou de faciliter la mise, l'accessibilité de ces informations, ou d'obliger même à ce que ces informations soient je dirais ouvertes, open data,
et de qualité.
Et mise à jour.
Oui. Hein,
et ça pourrait être des choses qu'on demande à des grandes entreprises publiques ou à des administrations qui, elles, souvent ont l'information.
Oui, vous avez tout à fait raison. On a une difficulté d'accès à l'information. C'est symptomatique aussi de la manière dont on traite le handicap dans le pays. Si les informations sont si difficiles à trouver, c'est bien que le handicap n'est pas totalement inclus dans notre société comme on voudrait nous le dire ou le prétendre à longueur de journée. On a eu un problème statistique sur l'inclusion des enfants à l'école. Lorsque j'ai porté la proposition de loi, je me suis rendu compte que nous n'avions aucune statistique fiable. Il n'y a qu'aujourd'hui, on a des millions d'enfants qui sont hors des radars. Hors des radars. Dans un grand pays comme la France, nous sommes incapables d'identifier le nombre de demandes qu'il y a eu précisément, le nombre de rejets qu'il y a eu, le nombre de situations encore sans solution, puisqu'on a des gamins qui ne sont pas scolarisés parce qu'on n'a pas été capable de leur trouver une solution, etc., etc. Alors quand j'ai posé la question, le ministère m'a dit « Oui, mais vous comprenez, les logiciels, les machins, les bidules... » Enfin écoutez, une grande puissance comme la France, incapable de trouver le bon logiciel ou le bon outil pour faire remonter toutes les informations statistiques des différentes maisons départementales du handicap, c'est une histoire de dingue. On n'y croit pas une seconde. Ouais. Et donc on a un vrai travail à faire. Sur cela, moi j'ai proposé il y a quelques jours que l'on puisse créer un outil statistique qui nous permettent d'y voir clairement, d'être capable, quand on vote le budget à l'Assemblée nationale, de savoir à quelle hauteur on doit le voter, de ne pas se laisser enfumer par les uns ou par les autres qui nous disent « il y a tant d'élèves » alors qu'on sait qu'en fait il y en a 30 ou 40% de plus. Et sur l'accessibilité des bâtiments, c'est aussi le cas. Vous aviez raison tout à l'heure de dire que les collectivités avaient fait beaucoup d'efforts. Moi j'ai vu l'évolution depuis 10 ans, dans des petits villages, des collègues maires qui étaient un peu réticents parce que ça coûtait beaucoup d'argent, on voyait pas trop l'utilité, qui maintenant sont devenus les premiers promoteurs de tout ça. Les premiers promoteurs. Et donc c'est vrai que c'est là qu'on voit...
Vous-même, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, mais même moi, j'ai évolué sur le sujet. J'ai évolué entre le moment où on me disait il faut mettre un passage piéton avec des clous, etc. Je dis, mais enfin, quand même, bon. Et puis le reste. Alors, il faut trouver les aménagements aussi. Quand vous voyez que, parfois, dans des bâtiments, on nous demande des dispositifs absolument dingues, alors qu'on a d'autres solutions très concrètes qui permettent à la personne d'être accueillie. Je vois à une époque dans les mairies on demandait des ascenseurs partout, c'était ridicule. Bon, maintenant on a mis en place des équipements avec une sonnette en bas où on descend voir la personne, c'est ce qu'on fait de mieux, et la personne qui a un problème de mobilité, ça lui est égal de prendre l'ascenseur pour monter au premier étage ou d'avoir le service au rez-de-chaussée. Bref, il faut être aussi crédible sur les demandes que l'on fait, mais il ne faut pas être lâche. Voilà. Pas qu'on soit lâche, il faut pas qu'on se dise que au fond tout ça c'est des contingences. Mais moi il y a une chose, je le dis, pour moi c'est essentiel. Sur ces débats-là, souvent on nous renvoie des contingences matérielles. On parle de toute cette incapacité concrète à mettre en place les choses. Sur des libertés fondamentales. Et parfois c'est l'accès, vous le disiez tout à l'heure pour l'enseignement supérieur, l'accès à l'école. C'est-à-dire qu'on a des enfants aujourd'hui dans notre pays qui n'ont pas de scolarité. Vous entendez, pas de scolarité à cause de leur handicap. Est-ce qu'on accepterait en France que des enfants normaux, valide, pour reprendre des mots qu'on emploie souvent, soit...
Il n'y a pas d'enseignants, donc vous n'allez pas à l'école.
Est-ce qu'on accepterait qu'on ait quelques milliers d'enfants qui soient sur le carreau? Mais jamais. On le dénoncerait en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? L'école de la République doit donner accès à l'instruction, à l'éducation pardon, pour tous. Eh bien, ce qu'on n'accepte pas pour le milieu ordinaire, on l'accepte pour les enfants en situation de handicap. Ça dit beaucoup de notre lâcheté.
Oui, ouais, tout à fait. Et sur l'exemple...
Un dernier mot, Audrey Sauvigny. Oui. On va faire la fin de notre émission. Mais...
Oui, du coup, je pense qu'il faut, trouver un juste équilibre entre à la fois des lois qui vont plaquer des règles, des normes sur l'accessibilité, mais aussi arriver à sensibiliser le plus grand nombre au handicap, à l'inclusion, même si effectivement ce terme est de plus en plus dénaturé. Mais que du coup il y ait de plus en plus de sensibilisation du grand public pour que la sensibilisation soit vraiment infusée et que en fait on mette aussi plus l'accent sur le bon sens. Nous on a un utilisateur par exemple qui tous les jours va prendre sa baguette et qui reste dans sa voiture, qui klaxonne, la boulangère sort, il lui tend sa monnaie puis il récupère sa baguette. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une expérience accessible, rendue accessible là? Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, une flexibilité qui apportera plus de confort à chacun.
Eh bien, merci beaucoup, merci. Audrey Sauvigny, fondatrice de I Will Share,
exactement,
qui met le numérique au service de l'inclusion des personnes handicapées. Et Aurélien Pradier, député de la première circonscription du Lot, Les Républicains, je ne l'avais pas dit tout à l'heure.
Finalement, sur ces sujets, c'est souvent.
Mais peu importe, parce que comme vous l'avez démontré, sur ces sujets, il y a des majorités d'idées et il y a surtout des acteurs de la société civile, du monde politique qui s'engagent. Merci à vous, à très bientôt. Vous étiez dans Et si on en parlait sur Radio Orient.
Merci.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.